jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est poète, écrivain et éditeur. Et c'est à ces trois titres qu'il est avec nous ce midi. Mais il faut ajouter à cela une quatrième raison, peut-être celle qui fait le lien entre toutes, la tenue de la 25e édition du Printemps des Poètes jusqu'au 25 mars, partout en France, événement qu'il soutient et auquel il contribue. Événement qui, je le rappelle, n'a pas été sans friction, c'est peu de le dire. Après la nomination de Sylvain Tesson comme parrain, une tribune contre cette nomination, la démission de sa directrice Sophie Nolot, le printemps a pourtant bien lieu et c'est sous le thème de la grâce, excusez du peu. Mais que reste-t-il de la grâce dans un tel contexte? Et d'ailleurs, faut-il vraiment que la poésie et les poètes soient encore gracieux pour en être?
Bruno Doucet, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans les Midis de Culture.
Merci à vous.
Alors comment ça se passe cette 25e édition du Printemps des Poètes, Bruno Doucet, qui a ouvert le 9 mars dernier, qui va se prolonger jusqu'au 25 mars, après toute cette tempête qui a eu lieu en début d'année?
Vous savez, après les tempêtes, d'abord les tempêtes sont peut-être nécessaires, hein, même sur le plan météorologique, temps variable avec éclaircie, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ben, là, les choses se mettent en place, des dizaines, des centaines de poètes rejoignent les destinations où ils sont invités, et c'est ça qui compte, hein, parce que n'oublions jamais dans cette histoire les publics auxquels nous nous adressons. On peut peut-être les nommer, hein,
voilà. Allez-y.
Eh bien, les collégiens, les lycéens, les enfants dans les écoles, à l'université.
Les personnes âgées.
Non, je rêve, par exemple, aujourd'hui, de voir des poètes aller à Sciences Po. Après,
il n'y en a pas?
Ben, je ne sais pas. Mais ce serait formidable de faire entrer
un
poète, voyez.
Ah, vous voulez dire un professeur?
Ben, un enseignant.
Un
poète qui, voilà, irait parler aux jeunes étudiants qui, hier, ont refusé l'accès à une jeune fille juive en lui disant qu'elle n'avait pas droit d'accès parce qu'elle était sioniste. Moi, je rêve que la poésie puisse entrer partout et, globalement, elle le fait. Hier au soir, sur France Culture, vous invitiez un détenu, quelqu'un qui a purgé 28 ans de prison, Khaled Miloudi, qui a écrit un poème et qui expliquait sur votre antenne combien la poésie en prison lui a sauvé la vie, lui a donné un cap, une direction et a ouvert des portes pour aller au-delà de sa propre vie. Donc moi, je crois beaucoup à cela. Et les poètes, actuellement, partent rencontrer les publics qui les attendent et c'est ça qui est le plus important.
Mais est-ce que vous avez compris, pour revenir sur cette polémique, Bruno Doucet, en fait, qu'elle divise autant ces poètes dont vous parlez de manière peut-être unifiée, parce que sur l'ambition que la poésie soit accessible à tous, qu'elle aille vers tous, qu'elle n'ait plus cette image élitiste ou poussiéreuse ou faite d'école, voilà, c'est pas vérifié pendant justement cette polémique où il y a eu beaucoup de dissensions et beaucoup de querelles.
Oui, c'est vrai. On a l'impression d'être passé à travers un buisson d'épines. Et on ressort tous un tout petit peu écorchés par tout cela. Mais est-ce, au fond, si grave? Qu'est-ce que je comprends là-dedans? Je comprends d'abord la fragilité d'un moment de l'histoire de nos sociétés, les angoisses multiples de nos concitoyens.
Et sur la montée de l'extrême droite, pour le dire clairement.
Alors là, clairement, il y a l'horizon 2027 qui terrifie, qui tétanise, c'est évident, et qui peut-être va induire une lecture. Alors on s'est dit, est-ce que Sophie Nolot n'est pas en train de dévoiler un jeu diabolique? Elle a commencé avec l'ardeur, c'est une thématique.
C'était un des thèmes de...
Ouais, et puis 7 ans plus tard, nous arrivons avec la grâce, et c'est ce côté vieille France, et on choisit Sylvain Tesson, icône de littéraire de l'extrême droite. Alors est-ce qu'on n'est pas là dans un dévoilement progressif? Est-ce qu'on n'est pas en train de tomber le masque d'une stratégie politique? Je ne suis même pas sûr que ce soit cela. Je suis même presque sûr du contraire s'agissant de Sophie Nolot. Je pense qu'elle a voulu probablement de bonne foi ou de bonne grâce ou de mauvaise grâce, je ne sais pas, on verra. Eh bien, capitaliser sur la notoriété d'un écrivain de cette génération, de sa génération, avec lequel elle partage sans doute des goûts communs pour la haute montagne, la solitude des grands espaces et l'équitation. Mais voilà, faut-il pour autant diaboliser les choses, je ne sais pas. Et quant à la réaction des poètes qui ont signé
la tribune,
bah, beaucoup sont mes amis, mes auteurs. Moi, je les comprends, je les respecte. En dépit des erreurs
qui
ont
été commises. Vous n'avez pas signé, je la
précise. Non, moi, je ne l'ai pas signé. Mais en fait, je n'ai pris position ni dans un sens, ni dans l'autre. Mm. Mais pour vous dire les choses, je suis un peu ailleurs.
Comment ça? Vous êtes poète, vous êtes éditeur de poésie. Comment vous pouvez être ailleurs?
Oui, mais voyez, je publie des poètes. Cette année, j'ai publié des poètes ukrainiens. J'ai publié une anthologie des femmes afghanes. J'ai publié des auteurs iraniens. Je publie des poètes israéliens et palestiniens, etc. Bon, voilà, j'ai l'impression d'être un citoyen du monde et de me trouver peut-être dans une chemise un peu trop étroite quand on me ramène à des problématiques franco-françaises strictement hexagonales qui sont un peu exaspérantes, qui sont un peu étriquées, un peu pauvres. Voilà, j'ai envie.
Oui, mais justement, les poètes dont vous parlez de partout dans le monde, vous avez cité l'Afghanistan et l'Ukraine, c'est pas pour rien parce que c'est des zones qui sont en danger, problématiques, des zones de guerre. Vous voyez bien aussi que c'est pas que des idées franco-françaises, c'est pas qu'un problème franco-français, c'est aussi un problème de vision du monde qui s'est joué à ce moment-là. Sylvain Tesson, s'il est l'égérie de l'extrême droite ou des idées d'extrême droite, ça veut dire qu'il ressemble, il exprime, il représente des idées qui n'est pas concerné par ce problème du monde ou qui au contraire les rejette. Oui. Ou alors prend un parti qui n'est pas le vôtre en tout cas.
Oui, en tout cas, il est dans une démarche. Je ne sais pas si Sylvain Tesson est un citoyen du monde. C'est un citoyen égotiste. Voilà, c'est un voyageur solitaire. Et moi, je suis un voyageur solidaire. C'est un petit peu différent, je crois.
Donc aujourd'hui, sur le printemps des poètes, Bruno Doucet, il y a plus de présidence, il y a plus de direction.
Alors, attendez, il y a quand même deux jeunes femmes, Mathilde et Inès, qui travaillent tous les jours. J'ai presque dire nuit et jour pour que ce printemps puisse tenir en l'absence de Sophie Nolot, démissionnaire.
Donc il y a pas de direction, en tout cas pour l'instant, il y a des
je ne sais pas si on peut dire les choses ainsi.
Enfin,
il y a deux personnes qui travaillent et qui tiennent et qui font la démonstration que peut-être on pourrait penser les choses autrement. A-t-on besoin d'un directeur artistique à l'année? Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas. Qu'en sera-t-il demain? Je ne le sais pas non plus. Il y a un peu une confusion des identités, en fait, hein, parce qu'il y a le Printemps des Poètes, manifestation nationale, internationale, qui va même au-delà du monde francophone. Il y a ensuite la manifestation qui porte ce nom et qui dure 15 jours et qui tend à se développer un peu plus loin au printemps jusqu'au mois de mai. Et puis il y a une association, il y a un bureau où travaillent ces deux jeunes femmes.
Mathilde et Inès, donc.
Mathilde et Inès. Et il y a une structure associative dans laquelle ne figurent que quelques personnes. C'est une structure associative, je dirais, j'imagine, un peu fermée, parce que, pour ma part, voyez, j'en suis à ma 20e ou 21e anthologie. C'est considérable. J'ai publié plusieurs milliers de poètes, en définitive. Mais je n'ai jamais été invité dans un conseil d'administration, par exemple. Je sais à peine qui figure.
Vous collaborez au Printemps des Poètes parce que c'est l'événement sous différentes formes, différentes temporalités qui permet en fait de toucher le maximum de monde. Donc votre ambition première sur la poésie, mais vous n'en faites pas partie, vous n'êtes pas dans l'association.
Je suis, on pourrait dire, un électron libre, mais quelqu'un qui croit vraiment très très fortement à cette mission d'ouverture du Printemps des Poètes. Moi, je pense que il faut sortir la poésie du laboratoire dans lequel elle s'est un peu enfermée. Il faut la sortir des bibliothèques et il faut la rendre à la rue. Je crois cela fortement. Je pense que la poésie, c'est une affaire pour toutes et tous.
Alors, on va revenir justement, Bruno Doucet, sur comment vous procédez en tant qu'éditeur pour œuvrer à cette ouverture. Mais il y a une question aussi qui m'interroge, on y reviendra, sur comment vous faites pour trouver des poètes. Ça, c'est une vaste question. D'abord, vous avez évoqué, Bruno Doucet, le fait que vous contribuiez à ce Printemps des Poètes en produisant, en établissant chaque année une anthologie en fonction du thème choisi. Donc on va commencer par parler de ça. Et pour ça, on va écouter une chanson de Georges Brassens.
Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau. Nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Au diable les maîtresses que qui attachent les cœurs aux queues des casseroles. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin.
La non-demande en mariage de Georges Brassens, chanson de 1966, mais qui figure, Bruno Doucet, dans cette anthologie Grâce, livre des heures poétiques, donc établie, une anthologie établie par vous-même et Thierry Renard à l'occasion de cette 25e édition du Printemps des poètes sous le thème de la grâce. Pourquoi y figure Georges Brassens ?
Ah bah là, je vais vous faire une réponse de circonstance en vous disant « J'ai l'honneur de ne pas demander la main de l'association Printemps des Poètes et ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. » Et voilà, moi je suis, je vous le disais il y a un instant, un électron libre. Par amour de la poésie et par désir de rencontre du public, des publics, eh bien je publie chaque année une anthologie. Une anthologie qui me mobilise énormément et qui nous mobilise. J'ai commencé avec Jean-Pierre Siméon aux éditions Segers, puis ensuite avec Christian Poslaniec et depuis 2018, avec Thierry Renard de l'espace Pandora à Vénissieux. Et au fond, chaque thématique choisie par autre que nous-mêmes nous lance un défi. Qu'allons-nous faire, par exemple, de la thématique des frontières que nous avons découverte à la fin du mois de juin 2022, sachant que le livre devait partir à l'impression fin novembre. Donc, comment allons-nous
construire un livre ? Vous travaillez tout l'été, quoi.
Ça veut dire que je travaille tout le temps. Parce que pour pouvoir publier 118 poètes, ne croyez pas qu'il faille lire simplement 118 recueils. Il en faut beaucoup plus. Il en faut beaucoup plus. D'autant que je ne me contente pas d'aligner des noms les uns derrière les autres par ordre alphabétique ou par ordre chronologique, que sais-je. Oui. Non, je construis une thématique et lorsque j'ouvre le dictionnaire et que je vois ce mot grâce tellement...
Ah oui, mais expliquez-moi parce que...
Opaque !
Voilà, on est d'accord.
C'est une opacité folle. La seule chose qui est simple, c'est le mot qui précède, grabuge.
Ah, c'est juste avant grabuge.
Le mot grabuge est juste dans le dictionnaire avant grâce.
Ce serait un super thème d'ailleurs
de
Printemps des poètes.
Mais ça fait, on l'a vécu là.
Ah oui, c'est vrai.
Et donc, quant au mot grâce, il est schisteux comme une montagne qui se délite. C'est incroyable ce terme, sa polysémie est extraordinaire. Bon, on peut se raccrocher à son étymologie grecque, ça c'est intéressant. Et puis, on peut aussi explorer l'ensemble de son champ sémantique.
Alors, c'est quoi son étymologie grecque ?
Son étymologie grecque, je vais vous dire, c'est le mot charis, qui désigne tout simplement, étymologiquement, ce qui brille, ce qui scintille, ce qui resplendit. Alors après... on en tire toutes sortes de choses. Vous voyez, dans le domaine, par exemple, religieux, ça vous mène à la transcendance, à la spiritualité. Alors, moi, j'en ai évité aucune. Des poètes chrétiens, il y a des poètes juifs, il y a des poètes musulmans, la spiritualité bouddhiste est là, et même le polythéisme. On trouve tout ça dans notre anthologie.
D'ailleurs, il y a 12 parties.
Oui.
Donc, à chaque fois, effectivement, comme vous le dites, vous construisez avec différentes approches. Il y a 118 poètes. Mm-hmm. Mais comment on fait pour... justement, parce que moi aussi, j'ai regardé la définition du mot « grâce », parce que j'avais presque du mal à la définir spontanément. Ce qui me venait en premier, c'est plutôt la dimension religieuse, puis la dimension esthétique, puis la dimension même relationnelle. C'est-à-dire, grâce à cette personne, pu faire ça.
Grâce à toi, ou certains disent grâce à Dieu.
Mais ça fait un peu désuet comme notion, soit trop conceptuel, soit un petit peu un charme désuet, suranné. On dit très peu un moment de grâce, on dit très peu quelqu'un qui est gracieux, sauf une danseuse.
Un très vieux mot de la langue française. Attendez, c'est un très vieux mot de l'Occident chrétien. C'est cela que vous voulez dire, hein ?
Oui.
Je l'entends. Et moi aussi, ça m'a un tout petit peu gêné. Et donc, finalement, je l'ai ouvert au monde entier. J'ai des poètes des 5 continents, des générations très différentes. Les plus jeunes ont une 20aine d'années. Assez peu de poètes disparus, Brassens, mais j'ai fait en sorte quand même que chaque chapitre, chacun des 12 chapitres de ces heures poétiques, hein, finalement c'est le cycle d'une journée, s'ouvre avec une voix d'hier, avant de faire entendre des voix d'aujourd'hui. Donc on a à peu près 12 auteurs du XXe siècle.
C'est un exercice contraint, vous nous l'avez dit, puisque ce n'est pas vous qui choisissez le thème, mais au final vous en faites quelque chose avec une très grande liberté.
Oui, j'ai pris le mot grâce comme un éventail qui était fermé. On me l'a livré dans un petit paquet, vous voyez. Il était fermé, comme quand vous achetez un éventail. Puis après, vous l'ouvrez là, à 180 degrés. Et puis vous regardez ce qu'il dit. Et vous travaillez les thématiques. Alors je me suis dit, entrons par exemple avec ce qui débute toute forme de vie. Cette grâce des premiers moments, du nouveau-né, de l'attente de l'enfant, la grâce enfantine. Là, il y a des textes sublimes dans ce chapitre. De Gioconda Belli, la grande poétesse nicaraguayenne, de Ella Yevtuchenko, la poétesse ukrainienne, de Marie Huo, une poétesse française, etc. Et puis, allons jusqu'à aux extrémités de la vie, rendre grâce, le coup de grâce, la mort est là aussi. Travaillons des thématiques contradictoires, paradoxales, par exemple, de bonne ou de mauvaise grâce. Mais entendons ce que nous disent les mots. De bonne grâce nous dit le consentement, l'acceptation. De bonne grâce nous dit oui. Quant à de mauvaise grâce nous dit le refus, l'objection. De mauvaise grâce nous dit non. Et donc j'ai travaillé ces thématiques. Regardez, gracier quelqu'un et le coup de grâce, ce sont des entités conceptuelles opposées. Donc je les ai travaillées de cette façon-là et je n'ai pas un catalogue d'auteurs que je veux coûte que coûte faire rentrer dans le livre. Mmh. Je vais à la rencontre d'auteurs parfois nouveaux, que je, pour la plupart, je les connais, mais encore pas tous. Par exemple, pour les extases bucoliques, ces moments d'émerveillement dans la nature, eh bien, j'ai fait la découverte d'une femme que je n'ai jamais rencontrée, Agathe Rivals. C'est simplement un recueil que l'on m'a offert au cours de l'été dernier, que j'ai lu. Et j'ai publié un texte, après avoir demandé l'autorisation à l'auteur et son éditeur, bien sûr. Voilà comment je travaille. Donc, au fond, je ne suis dévot de rien et curieux de tout.
Voilà. Bruno Doucet, est-ce qu'il y a un poème, peut-être, que vous avez envie de nous lire? On a entendu Brassens, mais peut-être que...
Il y en a beaucoup. Et
vous n'allez pas lire les tous
non,
les poèmes?
Non, je
ne
vais pas vous lire
118.
Les 118. Et puisqu'il y a plus de femmes que d'hommes dans cette anthologie, je vais vous lire le texte d'une femme et vous allez comprendre immédiatement que les petites polémiques sont peu de choses. À l'égard du texte de Victoria Amelina, une romancière ukrainienne, qui a cessé d'être très connue en Ukraine, en langue ukrainienne, qui a cessé d'écrire au début de l'invasion du 24 février 2022 pour documenter les crimes de guerre russes. Et c'est la première fois, je crois, qu'un poème de Victoria Amelina est publié en langue française. Elle est morte le 1er juillet 2023 à Kramatorsk, visée par un missile, alors qu'elle se trouvait dans un restaurant. Voici ce texte que nous avons traduit avec Ella Yevtuchenko. J'ai un fils. Ella un fils. Avant la guerre, elle en avait deux. Moi, je n'ai jamais eu qu'un fils. Comment peut-on expliquer à quelqu'un qu'elle a toujours deux fils, que celui qui a les yeux clairs n'est pas mort? Chaque jour, elle le met au monde en criant. Mais ce cri est celui d'une femme, non d'un bébé. Lui reste silencieux, bien qu'elle le mette chaque jour au monde. De son obscurité muette, il me regarde et me supplie de lui venir en aide. Mais elle est seule dans cette mise au monde. Entre elle et moi, désormais, ne reste que le noir. Parce que j'ai un fils et qu'elle a un fils. Avant la guerre, elle en avait deux. Moi, je n'ai jamais eu qu'un fils. Comment peut-on expliquer à quelqu'un qu'à nous deux, nous avons trois fils?
Merci beaucoup Bruno Doucet pour cette lecture.
Très franchement, je ne vois pas de priorité parce que ce sont deux histoires d'amour. Je suis éditeur parce que j'ai été poète et que mon premier manuscrit a été refusé et que j'ai tenu à le voir édité. Mais en même temps, je suis poète puisque c'est grâce à ce refus d'éditer mes poèmes que je suis devenu éditeur. Donc il m'est très difficile de préférer une activité à l'autre. L'une est pour moi indispensable, c'est d'écrire des poèmes quand j'en ai le besoin, l'envie, quand cela vient. Et d'autre part, comme activité plus pratique, c'est de diffuser, de faire connaître la poésie, pas seulement la mienne, mais celle des poètes en général, d'établir ce contact avec le public qui me paraît très souvent manqué. Et c'est aussi pour moi une activité essentielle.
La voix du poète et éditeur Pierre Seghers, c'était en 1979 sur l'antenne de RFI dans l'émission Esquisses et Portraits.
Est-ce que vous aviez reconnu sa voix ?
Oui, j'ai reconnu sa voix. Je l'ai dans la tête, je l'ai dans le cœur. Je me sens comme un héritier de Pierre Seghers. J'ai eu la chance de diriger sa maison après
pendant
sa disparition. Pendant 8 ans, ça a été une chose formidable.
Le premier poème de cette anthologie,
oui,
c'est
il est
un
de
poème
Pierre Seghers.
De Pierre Seghers.
Et il s'agit justement de ce dont il parle, c'est-à-dire il est tiré de ce premier recueil intitulé « Bonne espérance ». Ça, c'est bien quand même.
L'espérance.
Publié en 1938. Ben, au fond, que la poésie, ce soit le cap de l'espérance, ou de la bonne espérance. Moi, je crois à cela. C'est pas de la candeur, c'est pas de la naïveté. C'est une proposition dans le monde dans lequel nous vivons. Et donc, Pierre Seghers, en effet, va publier aux éditions de La Tour qu'il va créer en 1938 à Villeneuve-les-Avignon. Je pars dans 2-3 jours faire des conférences sur Pierre Seghers dans cette région même. Et il va créer cette petite maison d'édition, mais voilà que la guerre éclate. Et qu'en septembre 39, les cartes sont redistribuées. Et puis, il se retrouve en caserne à Nîmes. Et là, il se souvient qu'une génération plus tôt, un autre poète est passé là, Guillaume Apollinaire. Et Pierre Seghers va transformer sa vie en destin. Ça, c'est magnifique. C'est une aventure extraordinaire. Et c'est une aventure qui est ancrée dans l'esprit de résistance contre la politique de collaboration du gouvernement de Vichy, mais contre le nazisme aussi.
Vous aussi, Bruno Doucet, vous êtes poète et éditeur. Comment vous alliez ces deux fonctions-là, si j'ose dire, ces deux métiers ? Parce que quand on édite de la poésie, on comprend bien l'ambition, hein, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Mais quand on est soi-même poète, vous l'avez dit, c'est être, la poésie permet de tenir un cap. Un cap d'espérance. Mmh. On va revenir là-dessus, parce que vous avez précisé quand même que c'était pas naïf de votre part. Il faut préciser justement pourquoi c'est pas naïf. Mais comment on fait la distinction entre ces deux fonctions-là ? Quand on écrit, c'est bien différent que quand on édite.
Oui, bien sûr. Bon, d'abord, on ne peut pas être en état de création poétique H24. Hein. Non, ça, c'est impossible. C'est une brûlure, c'est une incandescence trop forte. Et c'est dangereux. Et donc, la poésie, elle va et vient dans nos vies. Elle est comme les sources, vous voyez, qui ont un cours à la surface de la Terre, puis qui disparaissent et que l'on fait revenir. C'est ça, le travail du poète, c'est faire revenir cette eau qui est régulièrement perdue à la faveur de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe en nous.
Mais oui, comment on
la
fait ?
La poésie, ça, c'est très lié à la tectonique des plaques qui sont en nous. C'est une espèce de géologie, c'est ces moments de friction. Pour moi, ça passe souvent par les émotions. C'est des moments où un regard, quelque chose que je vois, que j'entends, que je lis, va mettre en branle en moi la petite musique des mots. Je crois que avant d'écrire, je suis le volcan. Quand j'écris, je suis plutôt le bateau qui remonte le fleuve. Je ne le descends pas, je le remonte parce que c'est du boulot. Et j'essaie d'atteindre une source que je n'atteindrai peut-être jamais. Sinon, il n'y aurait eu qu'un seul livre. Mais une fois que cet écrit est publié, alors là, je suis le vent. Le vent qui est léger et libre, le vent que rien n'arrête et qui emmène les poèmes comme il emmène le pollen des fleurs pour polliniser le monde. Je vois les choses avec cette simplicité-là.
Oui, mais ça veut dire quand même que quand vous écrivez, Bruno Doucet, vous vous dites que vous allez être du pollen. Ça veut dire que vous imaginez quand même qu'il y a une sorte de pouvoir de votre écriture. Ça, c'est une énorme presque responsabilité ou une énorme pression que vous mettez quand vous écrivez.
Oui, on a une responsabilité. Ben oui, bien sûr, lorsque nous écrivons. C'est très intéressant parce que je crois que l'écriture, c'est vraiment un acte de liberté. C'est peut-être la création artistique, d'une manière générale, c'est la plus grande liberté qui soit donnée à l'homme, je le pense. C'est pour ça que peut-être Sylvain Tesson se trompe un peu lorsqu'il parle de cette liberté d'aller et venir dans le monde. Non, moi je crois plutôt à cette liberté-là, mais cette liberté n'a de sens que dans la responsabilité qu'elle donne. philosophiquement parlant et éthiquement, humainement parlant, les deux se tiennent. Liberté et responsabilité.
Mais expliquez-moi, qu'est-ce que c'est qu'un poème qui a une responsabilité politique?
Bah déjà, ce sont des mots qui se mettent debout dans l'espace de la page.
Oui, mais nous aussi, là, on parle, il y a des mots qui se mettent dans l'espace de notre studio.
Oui, mais les mots se mettent debout dans l'espace de la page et les poètes sont si paresseux qu'ils ne vont jamais au bout de la ligne. Vous avez remarqué, il y a des grands blancs partout. Ces blancs, ce sont les marges que nous laissons aux lecteurs ou à ceux qui nous écoutent. Tout texte poétique est suffisamment incomplet, inachevé, pour laisser à autrui la place de son passage.
Donc c'est déjà ça la première responsabilité, c'est déjà laisser de l'espace au lecteur.
Je crois, oui. On ne sature pas l'espace du poème. On ouvre des fenêtres pour autrui. Je crois que le poème, c'est un espace qui est ouvert et offert à la liberté d'interprétation d'autrui. Regardez, un poète qui vous dirait « voilà ce qu'il faut comprendre de mon texte, mettez-le à la porte tout de suite, c'est un imposteur ».
Oui, mais qu'est-ce qui nous empêche de penser qu'un poète dit n'importe quoi?
Et alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Finalement, on peut céder l'initiative au mot. Le surréalisme, par exemple. Prenez le vers formidable d'Éluard, « La terre est bleue comme une orange ». Il est au milieu d'un poème qui n'est pas le meilleur poème d'Éluard. Mais par contre, ce vers, il est extraordinaire. Il y a quelques jours, j'étais avec des élèves en grande difficulté scolaire qui n'ont pas vraiment accès à la parole et même au texte. Et je leur disais, c'est quoi cette façon de voir, de dire « la terre est bleue comme une orange ». Alors il y en a un qui a dit « ben ouais, mais parce que la terre, elle est ronde ». Un autre a dit « oui, mais quand le soleil se couche, la terre, elle devient orange ». Et puis un autre a dit « ah ouais, mais si tu... moi, une fois, j'ai soulevé une orange, elle était pourrite, elle était bleue ». Ah mais c'est formidable. On entre là dans la poétique d'Éluard. Et puis peut-être le garçon le plus en difficulté de cette classe a dit une chose merveilleuse qui a tiré des larmes à son éducateur. Il a dit « moi, ce que j'aime quand on épluche une orange... c'est qu'on peut la partager. Elle est déjà prédécoupée, les parts sont égales. À partir de là, on peut faire un cours pour des agrégatifs sur la poétique et la pensée politique d'Éluard. C'est formidable. Et c'est des enfants qui ne lisent pas qui disent cela. Donc, le poème est riche de ce sens. Il est ouvert et offert à la liberté d'interprétation d'autrui. Il porte en lui la démocratie.
Ce qui veut dire, enfin, comment vous expliquez alors, Bruno Doucet, que alors que c'est peut-être la forme littéraire qui laisse le plus de place au lecteur, qui ne nécessite pas de la part du poète lui-même d'écrire vraiment des choses qui ont un sens, pour le dire un peu grossièrement, on a eu pourquoi il n'écrirait pas n'importe quoi, comment vous expliquez que la poésie, même si elle connaît un rebond dans son marché, dans ses ventes, dans son rayonnement, soit si peu plébiscitée?
Elle l'est quand même, hein. N'exagérons pas. Et même dans les périodes d'étiage, je veux dire dans les années 70, 80, quand la poésie française s'était enfermée dans une espèce de laboratoire un peu conceptuel, il y a des choses très intéressantes qui se sont vécues quand même à ce moment-là. Mais malgré tout, elle rejoignait le public. Savez-vous combien il y a de maisons d'édition qui publient des poètes en France? Simplement en France. Près d'une centaine.
Oui, mais par exemple, le tirage moyen d'un recueil de poésie, c'est 250 exemplaires.
Ah non, pas du tout. Ah non, là, c'est totalement faux. Il y a un rapport était paru il y a environ 15 ans, disant que le tirage moyen était autour de 600, que le best-seller commençait à 800. Et aujourd'hui, les tirages sont bien supérieurs. Ils sont supérieurs à 1000. Et il y a quantité
c'est
de.
C'est une enquête qui est parue dans le Figaro en mars, hein, oh, que je cite.
Oui, eh ben, elle est fausse. Il faudrait revoir ça de près.
J'allais voir les journalistes
oui,
du Figaro.
Oui, oui, non, ça, je crois que c'est complètement faux.
Votre maison d'édition mise sur des gros tirages,
ben,
justement.
Moi, je mise sur des tirages assez importants. Je pense que le tirage moyen, il est autour de 1500, 1600. Il ne cesse de monter au fil des années. Et puis, il y a des livres que je réimprime une fois, deux fois dans l'année. Voilà. Donc, la poésie se porte bien, je crois. D'ailleurs, elle vient de se payer le luxe d'une crise de croissance. Vous savez, je crois que c'est ça.
Nous étions tout simplement en état de choc. Les Russes n'attaquaient pas uniquement par l'est de l'Ukraine. Ils attaquaient de tous les côtés. L'est, le nord, le sud. Donc oui, un choc énorme. À quelques centaines de kilomètres d'ici, se déroulent de terribles batailles où nos soldats défendent leur pays. Depuis le début de la guerre, les habitants de Kiev ont passé au total un mois dans les abris. 15 000 bébés sont venus au monde dans ces abris. Vous pouvez demander autour de vous. Tout le monde ne pense qu'à la guerre.
Vitali Klitschko, le maire de Kiev, donc dans le journal de 20h de France 2, c'était il y a un peu plus d'un an, en février 2023.
Alors peut-être les auditeurs auditrices se demandent pourquoi on diffuse la voix de Vitali Klitschko, mais c'est parce qu'il est un des héros de votre dernier roman, Bruno Doucet, parce que vous n'êtes pas seulement éditeur et poète, vous êtes aussi écrivain, on pourrait le dire de manière un petit peu plus large. Votre livre s'appelle Indomptable, il a été publié aux éditions Emmanuel Colas, et donc on y retrouve Vitali, mais aussi Mira Rai, qu'elle est une coureuse d'ultra-trail népalaise. Et la première partie de votre roman les suit de leur enfance jusqu'à leur explosion en tant que champion. Et puis la deuxième partie, on a une troisième voix qui est celle de Mélina, une femme d'origine grecque qui vit en Ukraine et qui vit justement cette guerre dont parle Vitali, ex-champion du monde de boxe et désormais maire de Kiev, Bruno Doucet.
Oui. Merci. Ben écoutez, c'est ça. Ça ressemble à la forme de ce livre ressemble à la dernière lettre de mon nom, le Y. Parce que vous avez deux histoires, deux branches comme ça, qui sont en dialogue. L'une qui nous emmène au Népal, à la fin du XXe siècle, avec l'histoire d'une jeune Népalaise très pauvre de l'Est du Népal, de basse caste, qui veut échapper à un mariage forcé, qui voudrait aussi pouvoir aller à l'école, mais qui ne peut pas en raison de ses conditions de vie, et qui va s'enrôler dans une milice maoïste au moment de la guerre civile, avant de devenir, comme vous venez de le dire, une championne. Elle va grimper sur l'Himalaya de l'ultra-trail. Elle va devenir, dans les années 2000-2015, la meilleure ultra-trailleuse du monde. Donc moi, j'en ai fait mon personnage, mon premier personnage. La deuxième branche de mon Y, c'est Vitali Klitschko et son frère Vladimir.
Qui est aussi un champion du monde.
Deux champions du monde qui ne se sont jamais affrontés. Ils en avaient fait la promesse à leurs parents. Eux sont nés dans les immensités insensées de l'Union soviétique. Et puis, ils ont vécu de Tchernobyl, l'effondrement de l'URSS et la découverte de leur racine identitaire ukrainienne. Et puis, ces deux récits, ces deux branches du Y, cette fourche, se réunissent dans quelque chose dont je ne vais pas trop parler, parce que je ne vais pas raconter tout le livre, mais qui est effectivement...
Alors, je ne vais plus raconter la fin, parce que me suis fait taper sur les doigts hier.
Alors, on ne raconte pas la fin, mais effectivement, Mélina, qui est purement et simplement née de mon imagination, et tout son entourage, je pense aussi à sa meilleure amie, Elpida, comédienne d'origine grecque, dans le théâtre de Mariupol, etc. Voilà.
En tout cas, sans dévoiler, on peut dire que que Mélina, en fait, s'intéresse à Vitali et à Mira, et à des très belles pages, alors qu'elle est dans un abri...
Anti-aérien,
sur l'écriture. C'est-à-dire que ces deux personnes qu'elle voulait rencontrer, parce que ce sont des personnes réelles, elle écrit sur eux. Et il y a ces très belles lignes que vous écrivez, Bruno Doucet, mais par la voix de Mélina, sur... Voilà, pas besoin en fait de les avoir rencontrés en fait ces personnes-là pour les imaginer, pour parler d'eux. Et vous dites que c'est un vieux débat en fait de dire qu'on ne peut pas parler ce dont on ne connaît pas en fait, ce dont on ne connaît rien, et de dire au contraire la littérature c'est parler de ce qu'on ne connaît pas qui laisse la place à l'imagination.
Mais c'est absolument certain. Ça rejoint le débat qu'on vient d'avoir sur la poésie. Si je connaissais à fond Mira Rai et Vitali Klitschko, j'aurais peut-être pu écrire un essai, un livre d'historien,
une biographie,
mais ça ne m'intéresse pas tellement. Je suis parti à la rencontre. J'ai scruté une opacité, j'ai traversé un silence, je suis parti à leur rencontre essayant d'atteindre une vérité parfois même au cœur de la fiction. Et puis, remarquez, puisque vous parlez de la boxe, vous parlez de la course à pied et de l'écriture, il y a beaucoup de points communs entre ces trois activités. D'abord, ce sont deux sports que l'on peut pratiquer nu, sans rien, sans aucun artifice. On a besoin d'absolument rien, comme l'écriture. Le peintre a besoin de pigments, d'une toile. Le sculpteur a besoin de gouges.
C'est vrai qu'on peut courir nu, se battre nu.
Exactement.
Voilà. Écrire nu.
Non, il y a quand même un crayon.
Même pas, parce que vous savez, dans les camps, les poètes privés de carnets et de crayons continuaient à composer. C'est le cas de tous ceux, par exemple, qui se sont retrouvés au goulag ou sous la dictature des colonels en Grèce ou ailleurs encore. Donc c'est de cela dont j'ai voulu parler, de la capacité de dépassement de soi et de la force de nos imaginaires. Et puis c'est un livre aussi sur l'Ukraine, qui prolonge mon engagement d'éditeur aux côtés des écrivains que je publie. Et voilà.
Et puis, j'aimerais juste dire un dernier mot, parce que j'aimerais vous citer Bruno Doucet dans Indomptable. Vous dites à travers Mélina, c'est l'écriture qui me tient en me concentrant sur un unique objet, une feuille, un caillou, deux histoires simples. J'ai trouvé le moyen de ne pas perdre pied, d'échapper à l'abîme, de dompter la peur. Ça, c'est vous qui parlez.
C'est Mélina. Elle me ressemble, je lui ressemble. Ce qui est formidable avec la littérature, c'est cette capacité que nous avons de sortir des limites de notre peau trop étroite, de nous penser nous-mêmes comme des autres.
Merci beaucoup.
Merci
Bruno Doucet.
Merci infiniment.
De vous, on peut donc lire ce roman Indomptable, c'est aux éditions Emmanuel Colas. On peut aussi lire l'anthologie que vous avez établie avec Thierry Renard. Elle s'appelle Grâce, livre des heures poétiques, et elle est publiée aux éditions Bruno Doucet, les vôtres donc, à l'occasion de la 25e édition du Printemps des Poètes qui se déroule partout en France jusqu'au 25 mars.
Pour terminer, Bruno Doucet, vous avez le choix entre deux chansons. Une chanson sur le printemps, Printemps des Poètes, ou une chanson sur la grâce. Laquelle choisissez-vous ?
Allez, le printemps.
Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant. Toutes les filles vous donneront leurs baisers, puis tous leurs espoirs. Vois tous ces cœurs comme des artichauts qui s'effeuillent en battant pour s'offrir au badaud. Vois tous ces cœurs comme de gentils mégots qui s'enflamment en riant pour les filles du métro. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant. Tout Paris se changera en baiser, parfois même en grand soir.
Simone Langlois, au printemps. Pour finir cette émission, merci encore à vous, Bruno Doucet. Grand merci à l'équipe des Midi de Culture qui sont préparées par Issa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Selle. Réalisation Louise André, prise de son Noé Chaban. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page de l'émission et sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain.
À demain, Géraldine.
France Culture, l'esprit d'ouverture.